présenter aujourd'hui donc les résultats de les travaux dans le cadre du projet AfoClim, donc qui porte sur la réponse des arbres forestiers au changement climatique et la vision qu'on peut avoir à travers l'étude des cernes des arbres. Donc les laboratoires impliqués, il y a deux laboratoires franciliens, donc un laboratoire du climat de l'SCE et un laboratoire d'écologie de l'ESE. Est associé aussi un laboratoire de l'INRA de Nancy, d'écologie forestière, et également en collaboration un autre laboratoire de l'université P11, plus orienté géologie. Enfin, il y a deux postdoctorats qui ont été recrutés et financés par le GISP, qui ont été aussi impliqués dans ces travaux du projet. Donc, le contexte général du projet porte sur la fragilisation constatée actuelle de la santé des forêts. Donc, a priori, on serait dans une période où on a une recrudescence des dépérissements forestiers. Et donc, on constate souvent sur de nombreuses parcelles des diminutions de croissance des arbres forestiers et également une importante mortalité, notamment suite à la sécheresse de 2003. Donc, les causes qui seraient impliquées, la cause de ces mortalités et baisses de croissance sont surtout des causes climatiques, donc ça sont peut-être des extrêmes de sécheresse ou des extrêmes de température, mais il peut y avoir aussi également des pullulations d'insectes ravageurs qui sont aussi en cause dans ces mortalités et qui peuvent être liées au climat également. Depuis environ les années 80, il y a un département, le département santé et forêt, en fait, qui suit l'état sanitaire de la forêt française. Donc ça s'appuie sur un réseau d'observation. Il y a environ plus de 200 observatoires qui suivent sur certaines parcelles l'état phytosanitaire des forêts. Alors, souvent, en fait, il y a des synthèses qui sont données par ce DSF et qui caractérisent, donc, en termes de dégâts constatés, l'état sanitaire des différentes forêts. Et en ce qui concerne l'impact des sécheresses estivales, vous avez ici le résultat de leurs observations depuis 89. Et je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs. Alors, peut-être pas très bien. En fait, sur les 20 ans, il y a environ que 5 années, celles qui sont toutes en vert, où il n'y a pas d'impact lié a priori à la sécheresse sur la croissance des forêts françaises. Donc on voit que la sécheresse, notamment estivale, a un impact assez fort a priori.
L'hiver, c'est le vert clair
Alors ça, pas de dégâts, c'est cela.
Ah oui,
là.
D'accord.
Donc là, il n'y a pas de dégâts, a priori, là non plus. Si on se situe plutôt en région cœur de la France, il y a environ la moitié des années où il y a un impact de la sécheresse et la moitié des années où il n'y a pas d'impact. Bon, ça c'est plutôt, ils constatent des dégâts à la fin de l'été, ils mettent ça en relation avec la sécheresse estivale, mais il n'y a pas de relation de cause à effet direct. C'est plus des mises en corrélation. Donc nous, l'idée en fait, c'est d'étudier la réponse de ces arbres aux contraintes climatiques, notamment à la sécheresse estivale, en ayant une vue à assez long terme, en utilisant les cernes des arbres. Donc ces cernes des arbres peuvent être des enregistreurs du fonctionnement de l'arbre à travers le temps, puisque dans les régions tempérées, en fait, ici vous avez une coupe transversale de tronc, et dans les régions tempérées, chaque année, l'arbre met en place un cerne, donc qui va être un indicateur notamment de sa croissance. Donc on peut remonter le temps comme ça, pas de temps annuel. Alors dans ces cernes, on peut mesurer ce qui est plus classiquement fait et le plus appréhendable, la largeur des cernes, qui est un indicateur de la croissance de l'arbre, mais on peut mesurer d'autres indicateurs, comme ça a été déjà dit, précisé par Emmanuel Garnier, la composition isotopique en C13, donc la proportion de carbone C13 par rapport au C12, et également la proportion d'oxygène 18 par rapport à l'oxygène 16. Alors, toutes ces indications, ces paramètres mesurés à l'intérieur des cernes, largeur, delta C13, delta O18, peuvent être utilisés par les paléoclimatologues pour reconstruire le passé. Donc ça, c'est ce qui avait été ce qui a été présenté aussi dans la présentation précédente. Et c'est ce qui est fait au LSCE. Quand on a une vision plus écologique, en fait, on va utiliser ces mêmes paramètres, mais pour essayer de comprendre la réponse des arbres aux variations du climat. Donc avec les mêmes données, on va avoir des approches différentes. Et ici, l'idée, à travers ce projet AfoClim, c'est d'utiliser un même jeu de données sur les caractéristiques de cernes et faire l'approche à la fois paléoclimatique et l'approche écologique en parallèle, et voir si l'une peut apporter quelque chose à l'autre. Donc, en ce qui concerne la démarche OLSCE, c'est à partir des données de largeur et de isotope des herbes, c'est de faire des relations statistiques avec le climat sur des périodes où le climat est connu, et ainsi d'obtenir des indices climatiques pour remonter le climat sur des périodes où on n'a pas d'informations forcément climatiques. En ce qui concerne l'approche écologique, c'est plus l'idée de comprendre les mécanismes de gestion du carbone et de l'eau à travers, enfin, dans l'arbre, et de voir comment l'arbre répond au climat entre les années. Alors, en ce qui concerne les questions actuelles du LSCE dans leur démarche paléoclimatologique en utilisant les cernes des arbres, ils se disent combien d'arbres sont-ils nécessaires à échantillonner ? Est-ce que 2, 3 sont suffisants ? Généralement, ils en utilisent 4. Est-ce qu'on peut utiliser différentes espèces pour reconstituer des séries temporelles ? Parce qu'on n'a pas forcément toujours la même espèce disponible pour remonter dans le temps. Et est-ce qu'on peut aussi prendre différentes parcelles ? En ce qui concerne les parties plus écologiques, là, les questions portent sur plus, est-ce qu'il y a certaines espèces qui vont être plus sensibles à certains accidents climatiques, certains plus sensibles à la sécheresse, d'autres plus sensibles au froid, par exemple. Et on peut se demander aussi pourquoi certaines espèces sont plus ou moins sensibles à tel accident climatique. Une question qui peut être commune à la fois à la démarche paléoclimatique et à la démarche écologique, c'est de se demander si les caractéristiques qu'on mesure dans les cernes, donc la largeur et les caractéristiques isotopiques, est-ce qu'elles apportent des informations complémentaires entre elles, entre ces différents critères, et est-ce que selon les espèces qu'on considère, est-ce que les mêmes informations sont apportées ou est-ce qu'elles sont différentes. Alors, ici dans la Faucline, nous avons choisi d'étudier 3 espèces tempérées qui sont classiquement importantes dans les forêts en région Île-de-France. Donc le chêne sessile, le hêtre et le pin sylvestre. Donc ce sont 3 espèces qui ont des écologies un peu différentes. Alors le site d'étude qu'on a choisi donc, est le massif forestier de Fontainebleau, au sud-est de Paris, où il y a classiquement des parcelles de pins, de chênes et de hêtres. Donc l'idée, c'est de faire des mesures dans les troncs de largeur de delta C13 et de delta B18, et d'avoir en fait une approche à 2 échelles de temps différentes. Une approche de temps sur l'interannuel, où on va remonter dans le temps, sur une cinquantaine d'années, depuis 1960 jusqu'à 2007. Et puis une approche un peu moins classique, en fait, va être de se dire, on va prendre un cerne et on va regarder qu'est-ce qui se passe au cours de la formation du cerne. Donc là, ça sera une approche à une échelle de temps plus courte, l'échelle annuelle, et on va réaliser des suivis saisonniers pour voir comment se met en place le cerne et comment se met en place aussi les signaux isotopiques. L'intérêt de cette démarche à plus courte échelle de temps, c'est de savoir si dans les cernes, on va pouvoir avoir une information aussi saisonnière. Généralement, on a une information annuelle, mais ça serait peut-être intéressant de descendre à l'échelle saisonnière. Donc là, ce que je vais vous présenter pour les résultats de mes travaux, enfin, pas de mes travaux, c'est parce que moi, j'ai presque rien fait, c'est surtout les autres qui ont travaillé, à différentes échelles, c'est les approches interannuelles et les approches annuelles. Donc, et on verra à la fois la croissance et les isotopes dans les 2 échelles de temps considérées. Donc, simplement pour vous donner une vue d'ensemble du projet, donc, le projet donc, est maintenant dure depuis 3 ans. Les 2 premières années ont été surtout faites de campagnes de terrain et puis d'analyses en laboratoire. Donc, la première grande étape a été de récolter les carottes d'arbres en forme de Fontainebleau. Ça a été fait en collaboration avec l'INRA de Nancy. Donc là, on avait 3 parcelles pour chacune des 3 espèces et 15 arbres ont été carottés pour chacune des parcelles. Ensuite, il a fallu mesurer la largeur des cernes. Donc ça a été fait par Alice Michelot en collaboration aussi avec Nancy, l'INRA de Nancy. Et il fallait le faire avant les isotopes parce que les isotopes mesurés sur les cernes, c'est destructif. Donc une fois qu'on a fait l'isotope, on ne peut pas avoir la largeur. Donc après, il y a eu découpe des cernes au LSCE et analyse isotopique par le LSCE pendant l'année 2009. Donc il n'y a pas que les données historiques qui mettent 6 mois ou un an à aboutir. C'est encore pas fini les analyses isotopiques. L'année 2009 a été aussi l'année où on a fait les suivis saisonniers, donc c'est-à-dire les études à l'échelle temporelle de une année. Et puis l'année 2010, donc on a encore des analyses isotopiques qui sont en cours, qui se commencent à se finaliser, même encore certaines en cours. Et puis les rédactions d'articles qui ont commencé, notamment par Alice Michelot, depuis la fin de l'été. Alors, pour vous donner quelques exemples de résultats, donc je vais commencer par l'approche interannuelle concernant la croissance. Donc voilà, en ce qui concerne la croissance des trois espèces, donc le pin en bleu, le hêtre en rouge, vous voyez rouge, je ne sais pas, et le chêne, ben, il est plutôt en jaune maintenant. Et donc vous avez la largeur des cernes ici en fonction du temps, donc depuis 1960 jusqu'à 2007. Ce qu'on peut voir, enfin, classiquement dans la démarche d'anthrochronologie classique, en fait, c'est de prendre ces largeurs de cernes et de faire des relations avec des caractéristiques climatiques, notamment un pas de temps mensuel ou saisonnier. Et on voit les meilleures corrélations qu'il y a pour chaque espèce. Donc on a fait cette démarche. Et on a une autre démarche en parallèle, c'est d'essayer d'expliquer de manière plus fonctionnelle pourquoi certaines espèces vont être plus sensibles certaines années à une baisse de croissance que d'autres espèces. Alors, si on veut regarder maintenant ce qu'il y a de commun d'abord entre les trois espèces, on peut cibler certaines années, qui sont ici repérées en noir. Et en fait, ce sont toutes des années où il y a eu des fortes sécheresses. Et pour toutes ces années, on voit bien une chute de croissance pour les trois espèces. Je reviendrai sur l'année 2003 plus tard. Donc, quand on a des fortes sécheresses, visiblement, les trois espèces répondent en diminuant fortement leur croissance. Et on voit que pour le hêtre, la réaction est plus forte. Les amplitudes de forte croissance et de faible croissance sont plus fortes pour le hêtre. Maintenant, si on veut voir plutôt maintenant ce qui différencie les espèces, on peut cibler certaines périodes où on a une forte décroissance d'une espèce par rapport aux autres qui n'ont pas de forte décroissance. Je ne sais pas si ça se voit bien, ça se voit mieux sur l'ordinateur. Si on cible cette période-là, en 1986, on voit que le hêtre chute fortement en croissance, ce qui n'est pas le cas du pin ou du chêne. Et donc, et si on étudie plus précisément le climat de cette année, on s'aperçoit qu'en 1986, il y a eu un gel tardif qui peut expliquer cette diminution de croissance du hêtre, et qu'on retrouve à certaines autres périodes également pour le hêtre. Alors, on s'est aussi renseigné auprès de l'ONF pour savoir s'il n'y avait pas des attaques de défoliateurs, et a priori, sur toute cette période, les défoliateurs n'ont pas eu un impact très fort sur les trois espèces. Autre exemple, si on cible le chêne, maintenant sur cette période-là, en fait depuis 72, on voit que de 72 à 76, on a toute une période de diminution de la croissance du chêne, ce qui est un peu le cas aussi pour le pin, mais pas du tout pour le hêtre. Donc l'idée est aussi d'essayer de comprendre, et on n'a pas forcément complètement compris pourquoi on a cette forte diminution, mais a priori il y aurait une forte sécheresse en automne, une faiblesse de précipitation en automne en année 71, qui pourrait amorcer la chute de croissance du chêne à partir de 72. Alors, je vous disais tout à l'heure, pour l'analyse d'androchronologie, on va essayer de trouver quels sont les paramètres climatiques qui vont jouer le plus fortement, qui expliquent le plus fortement les largeurs interannuelles de cernes. Pour le pin, a priori, c'est la température de juin qui va expliquer le mieux les variations interannuelles de croissance. Pour le hêtre, c'est les précipitations estivales. Et pour le chêne, c'est les précipitations automnales. Je ne sais pas si je vais rentrer dans le détail, parce que je sens que fortement je vais dépasser également. Je vais juste vous donner quelques regards aussi sur l'année 2003 et l'année 2007. L'année 2003, donc de la forte sécheresse et des fortes températures, on voit que le chêne et le hêtre ont fortement chuté en croissance, mais ce n'est pas du cas du pin. Hein. Donc l'année 2003 n'a pas eu un impact sur le pin, mais sur le chêne et le hêtre. Et en 2007, donc 2003 était plutôt défavorable a priori à la croissance, mais en 2007, c'est une année au contraire qui est très favorable à la croissance normalement. Donc ça a été montré, on a un site aussi de tour à flux qui mesure les flux de carbone dans les forêts, et on a pu constater qu'en 2007, il y a des fortes entrées de carbone. Donc on constate très bien ici sur le hêtre, mais ce qui est bizarre, c'est que sur le chêne, bon, le pin aussi a augmenté de croissance, mais le chêne n'a pas forcément très bien augmenté de croissance, ce qui paraît un peu bizarre d'ailleurs. Donc l'explication, on l'a pas encore. En ce qui concerne, donc là, ce que je vous ai donné, c'est ce qui concerne les mesures de largeur des cernes. Maintenant, ce qui concerne les mesures isotopiques, donc C13 et O18. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail non plus de toutes les explications, surtout qu'on ne les a pas complètement finalisées. Mais vous avez exactement, comme pour la largeur des cernes, ici maintenant la composition isotopique depuis 1960 jusqu'à 2007 pour les trois espèces. Alors, comme ce sont des mesures qui sont relativement lourdes, on n'a pris que deux parcelles au lieu de trois pour ces mesures-là. Et là, vous avez par exemple pour le pin, les deux parcelles qui ont été mesurées, en bleu et bleu clair. Et en fait, il n'y a pas trop de différence entre les deux parcelles qui ont été considérées. Ce qui peut être intéressant juste de signaler sur ce graphe, c'est l'année 2007, où on voit, encore cette année 2007, où on voit clairement pour le chêne une très forte chute de delta C13 qui n'a jamais eu lieu auparavant sur les quasiment 50 dernières années. Alors, juste pour vous donner aussi l'idée de comment peuvent se compléter les informations largeur et isotope, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais tout à l'heure, je vous ai dit que pour les pins, les largeurs, l'indice de croissance, était surtout relié aux températures de juin. Et si on fait la même relation pour le pin avec les données isotopiques, en fait, on voit que le delta C13 en interannuel est surtout relié aux précipitations estivales. Donc, on voit que l'information apportée par la largeur et par delta C13 n'est pas la même. L'un est plus relié à la température, l'autre va être plus relié aux précipitations. Alors ça, c'est l'exemple du pin. Donc on voit que c'est les températures donnent plutôt la largeur, les précipitations sont plutôt corrélées au delta C13. Pour le hêtre, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que la largeur est plus reliée aux précipitations et le delta C13 à la température. Et pour le chêne, enfin, on voit également qu'on a une complémentarité d'informations climatiques. La largeur sera plus indicatrice des précipitations automnales et le delta C13 des températures du printemps. Alors, là, je vous ai montré le delta C13. Maintenant, je vous montre le delta O18, qui est un autre des paramètres qu'on mesure sur le cerne des arbres. Donc, au LSE, il le mesure effectivement sur des charpentes. Il faut remonter très loin dans le temps. Il peut remonter jusqu'à 1300 comme ça. Et pour des périodes plus récentes, ils utilisent des arbres sur pied. Donc là, c'est leur série de delta O18. Delta O18 depuis 1300. Ils ont fait ça dans le cadre d'un autre projet. Et les données à Fauquelin peuvent correspondre donc ici aux dernières valeurs qui ont été mesurées sur les arbres sur pied. Ce sont tous des données de chêne, hein, mais soit sur charpente, soit sur arbre sur pied. Ce qui, a priori, est la plus longue série européenne en 2018 actuelle. Alors, si on cible la période où on a à la fois des données O18 sur les cernes et à la fois des températures mesurées météorologiquement, enfin avec les thermomètres, on voit qu'il y a une très forte corrélation en fait, entre le delta O18 et la température maximale sur la période d'avril à septembre. Déjà, ils avaient ça sur une longue période, et les données à Fauquelin confirment qu'en fait, on a bien l'O18 comme indicateur de la température printemps-été. Par contre, ce qui est intéressant et un peu nouveau, c'est que la période depuis 2002, ici, jusqu'à 2007, où on a un découplage en fait, entre le delta O18 et la température. Alors qu'avant, c'est corrélé positivement, il semble qu'ici, on a la température qui augmente, alors que delta O18 diminue. Donc ça, ça sera à comprendre pourquoi ce découplage a lieu là. Est-ce qu'il va se poursuivre ou pas plus tard. Bon, je passe. Donc je vais passer maintenant aux approches. Donc là, c'était les approches interannuelles. Maintenant, aux approches annuelles. Et pas de temps saisonnier. Alors, j'ai bien fait de passer. Donc, au pas de temps saisonnier, maintenant, je vais vous parler de la croissance et du delta C13. Ça a été fait sur une parcelle par espèce. Et en fait, donc, l'idée est de se situer sur un an et de suivre en saisonnier la croissance de l'arbre et de suivre aussi le delta C13 dans le cerne à l'échelle de l'année. Donc pour cela, en fait, il y a des mesures de dendromètre qui ont été réalisées. Donc ça, les mesures de dendromètre vont donner la circonférence, les variations de circonférence du tronc. Également, des microcarottes ont été prélevées à un patent toutes les semaines pour analyser de manière anatomique les cellules qui vont dire de manière beaucoup plus précise s'il y a des cellules en croissance ou pas en croissance dans le bois de l'arbre. Donc là, c'est pour vous donner des exemples de coupes anatomiques qui vont pouvoir, donc après analyse des différents types de cellules, on va savoir si les cellules sont en début, fin ou ils ont terminé leur maturation biochimique et leur croissance. Ainsi, donc, on a pu suivre la croissance en circonférence de chaque espèce, du hêtre, du chêne et du pin. Et grâce aux analyses anatomiques, c'est beaucoup plus précis de dire quand la croissance est terminée et aussi de déterminer précisément le début de la croissance. Là, je vous présente un bilan des étapes phénologiques pour les trois espèces qui ont été issues de ces analyses anatomiques. Vous avez par exemple ici la durée de croissance des troncs de chaque espèce. On voit ici la durée de croissance du pin, du chêne et du hêtre. Et on voit très techniquement que le pin a une durée de croissance beaucoup plus longue que les deux espèces feuillues. Le chêne et le hêtre, les deux espèces feuillues, ont une durée de croissance à peu près équivalente, mais par contre elle est décalée de 3 semaines dans le temps. Donc la conséquence de ça, ça veut dire qu'en fait, quand le cerne se met en place, quand il pousse, il va intégrer des périodes climatiques différentes. Donc en parallèle aux mesures de croissance, enfin, sur les mêmes arbres où il y a eu des suivis de croissance, à la fin de l'année, des macrocarottes ont été prélevées pour avoir le cerne qui a poussé pendant la même année. Et ensuite, à partir de ce cerne, on fait des lamelles dans le cerne. On en déduit, on mesure le C13 et l'O18. Et on peut reconstituer comme ça, dans la saison, quelle est la valeur de C13 au sein du cerne. Bon, je vais passer rapidement. Voilà, juste des exemples. Donc ça, c'est des valeurs de C13 dans la saison sur un cerne de pin, sur un cerne de chêne, un cerne de hêtre. Donc je ne vais pas rentrer non plus dans le détail des résultats, mais c'est en cours d'analyse et d'essayer de voir comment on explique ces variations saisonnières de signatures isotopiques. Sur la parcelle de hêtre, en fait, on a constaté de forts, enfin, un impact de dépérissement important. De nombreux individus avaient un pied dégradé avec des branches mortes, et donc on a pris la décision d'étudier ce qui n'était pas prévu au départ, de comparer les êtres sains et les êtres dépérissants. Ce qui est important en termes de croissance entre les êtres sains et les êtres dépérissants, c'est que là vous avez donc les vitesses de croissance des sains et là ici des dépérissants, ils ont une vitesse beaucoup plus faible, les dépérissants, et aussi ils s'arrêtent beaucoup plus tôt. Si vous avez maintenant, on regarde la durée de croissance, on voit ici pour les êtres sains qu'elle est beaucoup plus grande, la durée de croissance, que pour les êtres dépérissants. Donc là aussi, on n'intègre pas encore moins la même période de la saison dans les cernes. Très rapidement aussi, juste un résultat entre êtres et sains. Pour ce qui concerne le delta C13, on a ici la valeur du delta C13 dans les cernes des êtres sains, ici dans les êtres dépérissants. On voit qu'il y a 1 pour 1000 de différence entre les deux. Donc là aussi, c'est probablement un indice de fonctionnement différent entre les deux espèces, mais il va falloir comprendre pourquoi. Je ne sais pas, il me reste rien, j'imagine.
Quelques minutes.
Bien.
Quand même 2-3 minutes.
Maintenant, les dernières étapes en ce qui concerne l'approche saisonnière, donc annuelle, pour l'O18. En ce qui concerne l'O18, en fait, c'est un peu différent du delta C13. Le delta C13, la signature delta C13 dans le cerne, est forcément le résultat du fonctionnement de l'arbre. Et donc, est forcément le résultat de la réponse de l'arbre au climat. Pour le delta O18, c'est différent. L'arbre prend de l'eau qui a une signature O18 donnée, et l'eau qu'il prend a déjà une indication de climat. Donc l'arbre prélève de l'O18, de l'oxygène 18, enfin de l'eau qui a une certaine caractéristique en O18 qui est déjà relative au climat. Par contre, après, il y a plein de choses qui se passent dans l'arbre qui va modifier la signature O18, et on n'est pas sûr de retrouver exactement la signature climatique qui était déjà dans l'eau prélevée. Alors, tout ça pour vous dire que la signature dans les serres d'eau 18, donc elle peut être modifiée par ce qui se passe dans l'arbre, mais elle peut être aussi modifiée par tout ce qui se passe dans le sol. En fait, la delta eau 18 des précipitations peut être modifiée dans le sol, puisqu'il y a évaporation, et puisqu'il y a aussi le drainage vers la nappe phréatique. Et donc l'idée, nous, ici, dans la Faucline, ça a été de mieux comprendre la modification du delta eau 18 qui se passe dans le sol. Et c'est ce qui s'est fait en collaboration avec un laboratoire d'hydrogéologie de l'UPL Sud et Florent Barbecot. Donc cette manip a été réalisée à Barbeau, où on a une tour à flux qui suit en permanence les fuites d'eau et le carbone à l'échelle de la forêt. Et alors là, je ne vais pas vous présenter non plus tous les résultats, je vais passer simplement pour vous dire qu'avec toutes les mesures qu'on a réalisées, on peut faire un bilan à la fois de masse et isotopique de l'eau du sol, et on peut reconstituer en saisonnier la signature O18 de l'eau du sol. Et c'est cette eau du sol qui est importante, puisque c'est elle qui est prélevée par l'arbre. Pour les géologues, en fait, lui, ce qui est important, c'est de savoir comment le delta O18 va jouer sur le delta O18 de la nappe. Mais... Et pour cette étape, enfin pour cette manip, il nous reste à prélever les cernes de Barbeau et de voir comment l'eau 18 des cernes évolue dans le temps, soit en interannuel, soit en saisonnier, et de voir la relation avec le delta 18 du sol. Alors, pour conclure, les principaux résultats, en termes de méthodologie, on a pu, je ne vous ai pas présenté les résultats ici, mais on a pu mettre en évidence que 6 arbres étaient nécessaires pour être représentatifs des variations interannuelles d'une population. Alors que généralement, en paléoclimato, je vous disais qu'ils en prenaient 4, donc on voit qu'il y en a peut-être besoin d'un peu plus. On a pu montrer que pour les 3 espèces, ils sont sensibles aux sécheresses estivales, mais que le hêtre est plus sensible au gel tardif, le chêne au plus automnal et le pin aux fortes températures. En fait, forte température, ce n'est pas forcément des fortes températures, c'est dès 25 degrés, le pin est déjà sensible aux températures. C'est le pin sylvestre. Il y a des points qui sont encore à élucider, notamment le découplage que je vous ai cité entre delta 18 et température depuis 2002, par exemple, et les très faibles valeurs de delta C13 en 2007. Enfin, l'effet du dépérissement, on a pu voir donc des forts effets du dépérissement sur la croissance et aussi sur la signature delta C13. Donc le delta C13 pourrait être peut-être un indicateur fonctionnel du dépérissement. Enfin, pour signaler ce qu'il nous reste à faire en 2011, c'est de finir la manip O18 en saisonnier, donc avec les mesures de CERN, d'O18 du CERN, la rédaction d'articles, Alice, et puis la thèse justement d'Alice qui va avoir lieu en mai-juin. Et enfin, il y avait toute une partie modélisation qui était inclue déjà aussi, qui était prévue dans AfoClim, mais qui n'a pas pu avoir lieu, qui a un peu débuté, mais qui est loin d'être finalisé, et qui serait bien d'amorcer un peu plus sérieusement et de prolonger. Et cela à la fois en utilisant un modèle qui existe, qui est développé au laboratoire ISO-Castanea, qui mesure à la fois qui simule à la fois les flux de carbone et d'eau des forêts, mais également les flux d'isotopes. Et un même modèle, mais à des échelles un peu différentes, existe aussi au LSCE, qui se nomme Orchidée, et ils introduisent aussi les isotopes actuellement dans Orchidée. Donc l'idée, ça serait d'utiliser les données d'AfoClim pour faire des simulations avec ces deux modèles. Donc je voulais juste aussi signaler que ce projet AfoClim a permis en fait des collaborations concrètes entre ces 3 laboratoires. ESE n'avait jamais collaboré avec IDES, donc ça a été l'occasion que ça soit le cas. C'était même aussi le cas avec le LSE qui n'avait jamais collaboré avec IDES. Et de même, ESE avait déjà collaboré avec le LSE, mais jamais avec la partie CERN des arbres. D'autre part, ça a été aussi l'occasion de développer des collaborations en fait, avec ceux qui étudient l'anatomie du bois à Nancy, où on n'avait jamais collaboré non plus, et je trouve que c'est très intéressant. Par ailleurs, c'est à travers AfoClim aussi qu'on a commencé nos premières mesures sur le dépérissement forestier, et donc on a envie de prolonger tout ce travail en ciblant le dépérissement forestier, en essayant de comprendre pourquoi ces arbres ou certaines espèces sont plus sensibles au dépérissement actuel et de comprendre ce qu'il va advenir dans le futur. Voilà, parce que si on est un pin, un hêtre ou un chêne, on va peut-être résister ou pas. Alors après, on peut s'adapter ou pas, il y a aussi tous les aspects d'adaptation à prendre en compte. Voilà, merci.